toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de tous les rendez-vous de Culture Science tous les jours sur France Culture à 14h, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde, bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien nous allons suivre à la trace presque selon sa biographie, puisque c'est ainsi que le fil rouge va être organisé, une bactérie, et qui va permettre, selon sa trajectoire, de mener une enquête, comme c'est le sous-titre de l'ouvrage qui nous préoccupe, au cœur de l'industrie pharmaceutique et son auteur, qui est sociologue, et Quentin Ravilly. Mais nous n'allons pas, bien sûr, rater notre habitude, et tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens quelques serpents, et oui, quelques espèces de serpents, ceux qui sont capables de parthénogenèse. Les femelles sont en effet capables de se reproduire avec ou sans mâle. Plusieurs espèces sont connues pour être capables de parthénogenèse, notamment les insectes tels que les abeilles. Là, les mâles proviennent d'œufs non fécondés, ou les pucerons. Toutefois, cette reproduction asexuée, impliquant que l'association d'un mâle et d'une femelle n'est pas indispensable à la procréation, est beaucoup plus rare chez les vertébrés. Mais elle a pu être recensée chez plusieurs dizaines de reptiles, d'amphibiens et de poissons, et ce pour une raison essentielle. En effet, ces espèces sont tout simplement unisexes, d'où une parthénogenèse obligatoire. C'est ainsi notamment le cas d'une quinzaine de lézards appelés à queue de fouet du genre Cnemidophorus du continent américain, dont tous les individus, sans exception, sont femelles. Pourtant, il y a plus étonnant encore, des chercheurs ont découvert des espèces de vertébrés comptant des mâles et des femelles capables de s'accoupler mais qui pouvaient aussi occasionnellement se reproduire de manière asexuée. Or, on pensait que dans ces cas de parthénogenèse facultative, observée et décrite depuis le début du 19e chez les poulets domestiques, était limitée aux seuls oiseaux domestiqués justement. Puis, on a découvert que plusieurs serpents, des lézards, dont le célèbre dragon de Komodo et des requins, y avaient également recours. On a alors cru que cette parthénogenèse facultative était due à la captivité, tous les cas documentés portant sur des animaux ayant été capturés. L'hypothèse était logique, puisque les animaux isolés et privés de partenaires potentiels auraient été contraints à cette reproduction asexuée. Aujourd'hui, des biologistes américains affirment cependant avoir découvert à l'état sauvage, cette fois, le même type de reproduction chez deux espèces de serpents de la famille des vipères, le mocassin à tête cuivrée, joli nom pour l'alias Agkitis strodon, Contortrix, et le mocassin d'eau, alias cette fois, Axtridon piscivoris. La comparaison de l'ADN de la maman serpent et de ses descendants tous mâles a démontré l'absence de mâles reproducteurs. Bien plus qu'une bizarrerie rare et marginale, nous sommes donc persuadés que notre découverte constitue le premier cas de parthénogenèse facultative chez des vertébrés sauvages, souligne Warren Booth, l'un des scientifiques qui a mené cette recherche. Pour ce dernier, la question qui se pose donc désormais est pourquoi un tel phénomène survient alors que les partenaires mâles abondent chez ces deux espèces de serpents. Quoi qu'il en soit, cette forme de reproduction asexuée est en vérité beaucoup plus répandue qu'on ne le croit chez les reptiles à écailles, les serpents, lézards, iguanes et autres caméléons, et ne peut désormais plus être considérée comme une bizarrerie rare et marginale dans l'évolution des vertébrés. Voilà ouverte la grande voie de la parthénogenèse. Bonjour Quentin Ravelli.
Bonjour.
Bonjour le sociologue. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher très légèrement du micro ?
Comme ceci.
Voilà, parfait.
Entendez
merci
mieux.
Beaucoup. La stratégie de la bactérie, vous avez pris un axe que je trouve des plus intéressants, une espèce de malice méthodologique, on peut dire, puisque vous avez pris un antibiotique, un seul, et vous l'avez suivi, vous avez tracé donc sa biographie, son itinéraire, et en suivant les pérégrinations pharmaceutiques de ce médicament, puisque c'est jouer de la bactérie pour tuer de la bactérie, vous décrivez, vous donnez un tableau pratiquement complet, et à la fin de l'ouvrage, on a devant nous quelque chose comme un tableau presque synoptique, avec ses difficultés concernant l'industrie pharmaceutique. Ça vous est venu, le choix était difficile de choisir cette bactérie qu'on va définir, Quentin Ravelli?
Alors le choix de l'industrie pharmaceutique n'était pas difficile, mais le choix de la bactérie ou du médicament en question a été un petit peu plus laborieux à faire aboutir. D'abord, l'industrie pharmaceutique, si votre question porte là-dessus aussi, j'ai toujours été fasciné par l'ambivalence du médicament. Dès la Grèce antique, on parle de pharmakos et de pharmakon. Le pharmakon, c'est ce produit qui peut être à la fois un venin et un médicament miracle. Et le pharmakos, ce sont ces sans aucune allusion malicieuse de ma part à l'industrie pharmaceutique, mais ce sont ces malfaiteurs que la cité antique sacrifiait pour sauver la cité de ces maux qui pouvaient être économiques, épidémiologiques ou encore politiques. Donc cette ambivalence m'a toujours semblé intéressante et il s'est trouvé que cherchant à travailler à l'intérieur de l'industrie pharmaceutique pour y faire cette enquête, j'ai travaillé dans une usine qui fabriquait à partir de gigantesques fermenteurs, donc il faut s'imaginer des chauffe-eau dans lesquels les bactéries se reproduisaient. J'ai commencé à travailler sur ces bactéries comme technicien de fabrication et ça n'est qu'ensuite finalement que le fil s'est déroulé.
Et vous avez d'ailleurs travaillé dans plusieurs segments d'une boîte en particulier, enfin d'un industriel particulier qui est Sanofi Adventist, c'est bien ça, hein ?
C'est ça.
Et on peut tout de suite dire d'ailleurs quelle est la place de cette entreprise dont les actionnaires principaux sont Total et L'Oréal, hein ? Ils sont
alors,
bien fournis, là. Hein.
Alors actuellement, les actionnaires ont un peu changé ces dernières années, mais
d'accord.
À l'époque, effectivement, c'était Total et L'Oréal qui étaient les principaux actionnaires. On l'appelle aujourd'hui Sanofi et c'est l'un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux, le premier groupe européen présent dans 35 pays avec environ 100 000 salariés. Donc c'est une grande multinationale avec de nombreuses usines et évidemment, comme c'est souvent le cas, une capacité d'influence des milieux politiques et médicaux particulièrement puissante.
Bien sûr, puisque en particulier, on peut le dire tout de suite, que pour donner d'une certaine façon le ton, ces marques, puisqu'on va les appeler comme ça, et qu'il va y avoir un conflit permanent entre l'industriel avec ses marques et puis les problèmes de santé publique, la pharmacie générale, ainsi de suite, et puis aussi la délivrance de l'utilisation possible d'un médicament, tenait par exemple ces stands à l'intérieur du Sénat. Et puis on leur a dit un jour, bon, c'est peut-être le marchand du temple, faut peut-être sortir. Mmh. Mais donc on voit l'influence évidemment prépondérante, puisque tenir stand au milieu du Sénat, c'est un peu mélanger les genres quand même, non ?
Évidemment, mais je pense que c'est un peu comme ça que fonctionne ce secteur-là, et comme d'autres secteurs, mais c'est particulièrement choquant peut-être dans le cas de l'industrie pharmaceutique, ce mélange des genres permanent. Où on voit que, par exemple, la pratique des amendements préassignés, c'est-à-dire des amendements qui sont préparés par les industriels, qui sont souvent à la faveur de leurs intérêts économiques et commerciaux, peuvent ensuite être avalisés, parfois amendés, mais parfois aussi repris tels quels par les législateurs. Et on voit effectivement à l'échelle de ce secteur de l'industrie pharmaceutique comment est-ce que les entreprises finalement façonnent une forme de culture politique, parfois extrêmement efficace et difficilement détectable quand il s'agit de secteurs dans lesquels la science, hein, parce qu'on parle de laboratoire pharmaceutique, de secteurs dans lesquels la science joue réellement le rôle de premier plan. C'est difficile ensuite d'après, de réussir à analyser ce qui relève de l'influence commerciale et de l'activité scientifique, si tant est que ce soit possible réellement de faire la part des choses.
Et on le verra après, toujours avec la formation, puisque là il y a un acteur majeur, ne serait-ce que par sa population, par sa démographie même, c'est le généraliste. Et qui, le généraliste, a besoin en particulier à un moment d'avoir une formation qui lui est apportée par, des gens qui viennent de l'industrie. Alors, on commence par le mythe. On est en Amazonie, et puis il y a un aventurier, un explorateur. Il s'appelle comment ?
Spacey Jones.
Oui. Il se blesse au bras, il prend une petite boue, c'est ça, et puis continue l'histoire. Alors,
effectivement, Aurélie. Je pense que ce qui m'a intéressé dans le fait de suivre à la trace, pas à pas, l'histoire d'une seule et même marchandise depuis sa fondation jusqu'à sa commercialisation, c'est qu'évidemment, à chaque étape, il y a des petits mythes commerciaux qui permettent ou bien de souder les salariés derrière un même objectif ou bien de mieux faire vendre la marchandise auprès des médecins ou encore d'avoir une sorte d'image un peu aventurière du médicament. Et en l'occurrence, ce mythe-là vient de la découverte de la bactérie qui va être à l'origine du principe actif du médicament, dans une forêt amazonienne, par un aventurier qui se blesse au bras et qui recouvre sa blessure, purulente on l'imagine, de cette terre pleine de la bactérie salvatrice.
De cette boue-là.
Et c'était l'époque où l'industrie pharmaceutique pouvait, comme ça, maintenir des réseaux de correspondants scientifiques de par le monde, qui étaient des itinérants et recueillaient des échantillons pour ensuite les utiliser, notamment comme antibiotiques. C'est l'époque un peu de l'âge d'or des antibiotiques, où la recherche en matière pharmaceutique ne connaît pas encore toutes les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui, où effectivement pour chaque dollar investi dans la recherche et développement, les résultats sont beaucoup plus difficiles. Cette espèce de crise scientifique n'était pas encore connue.
Oui. Et, là, il y avait des sortes d'anthropologues, ou en tout cas qui discutaient avec les chamans et qui essayaient de trouver la molécule miracle dans un produit. Ils faisaient attention, très attentivement, ils écoutaient la médecine traditionnelle pour essayer de trouver la perle rare. On est en plein dans le truc, là.
Complètement, oui. Il y avait effectivement un aspect réellement aventurier dans cette façon d'essayer de récupérer comme ça des molécules, des échantillons, ou bien dans les bactéries du sol, ou bien dans les plantes,
ouais, c'est ça.
Les arbres, les fruits, en essayant de récupérer un principe actif quasiment présent à l'état naturel.
Ouais.
On n'est pas encore à cette époque-là, à l'époque de la chimie synthétique extrêmement sophistiquée qui fabrique des molécules de synthèse, et encore moins à l'époque de la biotechnologie où on essayera, à partir de la transformation génétique de micro-organismes au fil des années, essayer d'obtenir finalement des médicaments qui vont cibler, on parle
c'est
de thérapie ciblée,
modifier.
C'est la préhistoire, si vous voulez, de la recherche pharmaceutique.
C'est des biochimistes, et on le verra rapidement, mais ce sont des biochimistes donc qui sculptent, qui modèlent et certaines molécules et qui regardent les propriétés qu'elles peuvent obtenir pour être le plus précises, ces molécules-là, pour jouer donc de l'antibiotique, justement. Donc de l'envahissement par une bactérie. Alors, on va dire quand même son nom, hein, Piostacine, découvert en 1955, qui est mise sur le marché en 1962, prescrite à 1,8 million de patients en France par an. Pouf, ça rapporte. Hein. Son principe actif, je vais le dire doucement, c'est la pristiniamycine, produite, allons-y encore pour jouer de la classification des bactéries, à partir de Pristinae spiralis, bactéries filamenteuses qui sécrètent des molécules agissant contre de nombreuses infections. Alors là, on va voir après le détail du problème dermatologique et respiratoire en particulier. On va voir que le « et » respiratoire va arriver à un épisode où on va essayer d'étendre au poumon. Hein, c'est bien ça.
Oui.
Alors, la première, peut-être, on va suivre là votre itinéraire, ou plutôt celui de la vie de ce médicament, de cette bactérie, en commençant parce que c'est la chose que vous avez vue très vite lorsque vous avez été dans le centre, le siège principal, le siège social de la Société Adventiste, qui est dans la toute proche banlieue parisienne, c'est le secteur marketing. Il est d'une importance considérable.
Oui, il est à la fois d'une importance considérable et en même temps, tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que vous faisiez référence à cette sorte de double indication thérapeutique pour ce médicament-là, à la fois dans les infections respiratoires et dans les infections dermatologiques. Ce qui, moi, m'a paru étonnant, c'est que au siège social commercial de cette grande entreprise se trouve, un peu logé au cœur du dispositif, un secteur marketing qui n'est pas d'une grande importance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de très nombreux salariés. En même temps, ce sont eux qui sont chargés d'élaborer les éléments professionnels qui vont après se diffuser auprès des médecins.
Ouais.
Les brochures, les comptes rendus d'essais cliniques, les tirés à part des revues savantes qui vont diffuser une certaine image du médicament, mi-scientifique, mi-commercial. Et puis, de la publicité, on voit ce fameux aventurier Spacey Jones.
Mais Il a dû être rajeuni,
toujours avec cette couleur orange solaire qui représente manifestement l'idée d'aventure associée à la pyostacine. Et ce qui est intéressant, c'est que le travail du marketing, en association bien sûr avec les directeurs médicaux qui travaillent avec des meneurs d'opinion et des experts cliniciens pour fabriquer des essais cliniques qui vont après modifier ou transformer les indications thérapeutiques, on voit très bien qu'en fait, cette valeur d'usage du médicament... valeur d'usage, c'est-à-dire la façon qu'on a de l'utiliser médicalement, indépendamment de son intérêt commercial, cette valeur d'usage-là peut changer.
C'est ça. Que vous opposez, d'ailleurs, j'en profite, pardon de vous interrompre, mais que vous opposez bien évidemment à la valeur d'échange, où se joue toute la tractation commerciale, bien évidemment, la plus-value, les bénéfices, quoi.
C'est-à-dire que moi, cette façon d'essayer d'élucider à partir de cette biographie sociale d'une marchandise, j'essaye de voir quelles sont les contradictions qui se jouent à chaque étape, entre valeur d'usage et valeur d'échange. Et en l'occurrence, pour ce médicament-là, on est passé d'une valeur d'usage dans le domaine du dermatologique, à une valeur d'usage dans le domaine respiratoire qui est évidemment en pleine expansion avec tous les problèmes de pollution, de tabagisme qu'on peut connaître à l'heure actuelle. Mais si vous voulez, ça n'est jamais que le reflet à une échelle beaucoup plus générale de centaines de médicaments qui eux aussi ont vu leurs indications changer. Et l'un des plus fameux en date ces dernières années, évidemment celui du Mediator, dont la molécule est passée d'une indication contre le diabète.
Antidiabétique.
Une indication contre l'obésité ou même l'utiliser comme coupe-faim pour les personnes qui se trouvent un peu trop lourdes et qui souhaitent perdre du poids.
France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorge.
Alors, Quentin Ravelé, on va voir que tout va se déployer d'une certaine manière, là, pour rester rapidement, parce que on a tellement des choses passionnantes dans votre regard à rendre à partir de votre ouvrage que on va être obligé d'être succinct à des moments. Mais en tout cas, il y a, grosso modo, et vous allez me dire si je me trompe, évidemment, c'est ceux qui sont dans le marketing et qui sont d'une certaine façon, qui deviennent presque des amis de ces leaders d'opinion qui sont des grands cliniciens, des grands patrons, qui ont de l'autorité, ainsi de suite, qui deviennent presque amis, qu'on favorise par les voyages, évidemment, on les emmène, ils deviennent potes, comme ils le disent, ils deviennent vraiment copains, ils se tapent dans le dos, j'ai pu même leur passer de la crème sur la plage, bref. Et puis, il y a aussi, alors là c'est une armée, c'est le visiteur médical. Et passons un instant sur ce visiteur médical. Je rappelle les chiffres. Vous dites que en 2010, pour l'ensemble du marché français, l'industrie pharmaceutique employait, le chiffre est incroyable, 17 295 visiteurs médicaux chargés de convaincre 216 415 médecins, soit à raison d'un visiteur pour 12 médecins, 213 jours ouvrés par an et de 6 visites par jour, soit 22 millions de discussions cherchant à orienter la prescription. Ouf. Donc ça, c'est le colloque singulier.
Oui, moi j'ai été surpris aussi par ces chiffres. La première fois que je les ai entendus, j'ai essayé de les confirmer, effectivement. Il y a une masse de visiteurs médicaux qui tous les jours va convaincre les médecins. Ce qui se joue là, évidemment, avant même que les patients viennent voir leur médecin, c'est une sorte de préambule hein, à la consultation médicale telle que nous la connaissons tous, où la prescription va être orientée en fonction, évidemment, des intérêts commerciaux du laboratoire qui peuvent se maquiller aussi en intérêts scientifiques. Mais, si vous voulez, les choses se jouent un peu à deux niveaux. Oui. Et loin d'une sorte de vision un peu machiavélique et souvent un peu erronée d'une profession qui chercherait exclusivement à défendre les intérêts commerciaux, les choses sont bien plus subtiles. Il existe de la corruption, il existe ce que vous décrivez, à savoir des directeurs médicaux, des chargés de marketing qui passent de la crème dans le dos, qui créent des familles d'influence dans les colloques médicaux, dans les congrès médicaux à l'étranger. Donc une corruption pure et simple, hein, les derniers rebondissements révélés par Mediapart sont là pour le rappeler, par exemple, hein, entre autres choses. Oui. Mais on a aussi, d'une façon plus structurelle, je crois, un rapport de force entre du point de vue du savoir médical qui fait que les médecins n'ont pas accès à la connaissance réelle du médicament indépendamment de l'information que l'industrie pharmaceutique veut bien leur laisser filtrer.
À travers ces
visiteurs médicaux hein, qui sont là pour leur présenter, rappeler l'utilisation de telle ou telle molécule. Il faut bien se mettre à la place du médecin qui a devant lui une sorte de labyrinthe de références médicales, de noms de molécules, de noms de marques, de génériques, et qui ne voit pas forcément quel serait, même pour un secteur assez restreint somme toute comme celui des antibiotiques, il ne voit pas très bien pourquoi est-ce qu'il prédirait plutôt tel médicament que tel autre. Ouais. Et c'est là que tout se joue, c'est-à-dire que autant le médecin a une culture scientifique plus large, autant le visiteur médical, sur un point très précis, peut réussir à lui faire une prise de judo, comme lui rappelait un médecin que j'avais eu l'occasion d'interroger, peut inverser ce petit rapport de force et imposer, si vous voulez, la vie.
Prenons un exemple. Quentin Velli, il est assez intéressant parce qu'au départ, il est vendu, donc, et ça marche, comme antibiotique concernant, grosso modo, des problèmes dermatologiques, quasiment strictement, à partir de sa mise en application. Puis d'un seul coup, arrive un problème absolument majeur dans lequel on est là, cette fois, maintenant, aujourd'hui, devant presque une terreur de la santé publique si on n'y fait pas plus attention. Et en particulier, il y a eu de ce fait une campagne qui a eu des effets favorables pour arrêter de prescrire des antibiotiques, puisqu'on sait qu'il y a donc des bactéries qui sont antibiorésistantes. Mmh. Et donc, on est là devant cette situation. Alors, on pose pour aller vite, et puis vous allez enchaîner, pour aller vite et comprendre ce que vous dites, le visiteur médical arrive en disant non, mais attendez, c'est plus compliqué que ça, parce que dans notre molécule, elle est intéressante, c'est que nous avons, alors je cherche le terme et vous allez peut-être vous en souvenir, il y a deux fonctions, elle marche très très bien pour la dermato, mais elle marche aussi pour les pathologies respiratoires, pourquoi ? Et elle n'a pas de résistance parce que elle a deux molécules conjointes qui empêche, c'est un peu un tour de passe-passe, hein, ça d'ailleurs biochimiquement, qui empêche que les bactéries qu'on essaye d'attaquer avec elles deviennent biorésistantes. Comment ça s'appelle leur truc ? Effet synergistique.
Alors effectivement, je crois que chaque laboratoire essaye de pousser, de mettre en avant chacune de ces molécules et essayer de trouver, de piocher dans les arguments de santé publique des arguments qui pourraient être favorables à leur médicament. En l'occurrence, effectivement, c'est de trouver dans la composition moléculaire de ce médicament-là, deux molécules, effet synergistique, l'idée que ça serait un médicament beaucoup plus efficace pour lutter contre les résistances. Oui. Et donc de le pousser en première intention, c'est-à-dire de le prescrire plus en réalité que ce qui paraît raisonnable à certains médecins qui considèrent qu'au contraire il faut les garder en réserve au cas où il y aurait des échecs thérapeutiques d'autres médicaments. Donc là, on voit bien que la science, selon la façon de la percevoir, qu'on soit à l'intérieur du laboratoire pharmaceutique ou du côté des médecins, peut se transformer et qu'il n'y a en la matière pas vraiment d'objectivité. Et chaque laboratoire faisant ça, on finit par créer une sorte de pandémie, hein, parce que c'est vraiment une pandémie
et
aujourd'hui.
Oui, et oui.
La pandémie des bactéries résistantes qui est à l'origine de plus de 25 000 morts par an en Europe. Et il ne s'agit pas d'une maladie d'origine purement biologique ou médicale. C'est une maladie qui est économiquement et socialement organisée autour de la surpromotion du médicament, ouais. D'un côté, hein, et de la surprescription, parce qu'il y a aussi les patients qui demandent de leurs antibiotiques, et d'autre part, des baisses constantes de recherche en matière de maladies infectieuses qui paraissent beaucoup moins rentables que les maladies comme le diabète ou les maladies psychiatriques beaucoup plus intéressantes ou qui en tout cas représentent des marchés porteurs beaucoup plus importants dans les pays occidentaux développés. Donc en fait, cette maladie-là, hein, cette maladie sociale et économique que sont les bactéries, les infections résistantes, est un peu pris entre le marteau et l'enclume, hein, entre une surpromotion d'un côté et un sous-investissement en recherche de l'autre.
Alors, petite information, juste ainsi, c'est parce qu'il faut avancer le pas et partir vite pour Montpellier parce qu'on va aller visiter, on va pénétrer dans les secrets d'un congrès, les mains dans le dos sans se faire repérer, hein, avec vous, Quentin Ravelli, mais il y a une chose qui est tout à fait étonnante, bien évidemment. Une des informations absolument fondamentales de l'industrie pharmaceutique à travers ces visiteurs médicaux, bah c'est savoir s'ils ont modifié, ils ont pu arriver à ce que le médecin, le généraliste, modifie sa prescription. Et puis évidemment, il faut trouver la combine pour avoir des informations sur les prescriptions. Alors par exemple, là j'ai découvert que le visiteur médical, très gentiment, visite la pharmacie à côté du cabinet, et puis il dit, le docteur Tintin a prescrit combien de fois notre bio, ainsi de suite. Et puis il y a aussi un service qui a des malices, alors qui, lui, a des bases de données pour connaître les prescriptions. Donc c'est vraiment encadré. Hein. Là, on est vraiment au courant de savoir si ça marche, si ça marche pas, est-ce que c'est saisonnier, ainsi de suite.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait...
Intelligent service pour...
Exactement, les renseignements généraux de certains médecins disaient qu'ils se sentaient fliqués, observés, espionnés de différentes manières. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, officiellement, cette façon de mesurer les prescriptions et donc de suivre, de contrôler le comportement des médecins, officiellement, cette façon de procéder n'est pas légale, puisque les délégués à l'information pharmaceutique, hein, à l'information médicale, que sont les visiteurs médicaux, normalement ne sont pas des commerciaux. Et en réalité, effectivement, obtenir des primes, pour avoir une carrière dans la visite médicale, on est obligé d'augmenter sur sa zone le nombre de prescriptions de chaque médecin. Pour le savoir, il faut avoir des informations. Et donc, il y a des formes officielles, si vous voulez, d'informations pharmaceutiques. Donc, le GERS, par exemple, est un organisme qui collecte les données des médecins sur la prescription, etc. Le CAM, le cabinet Antoine Minkowski, par exemple, est une autre filière qu'on peut appeler d'informations pharmaceutiques, dans la mesure où, effectivement, ça permet de connaître ce que font les médecins. Mais aussi toutes les petites pratiques informelles. Donc, tenir, par exemple, un carnet dans lequel on note les comportements des médecins. Aller à la pharmacie du coin pour savoir si tel médecin a prescrit plus tel ou tel médicament, se renseigner auprès des confrères, aller dans les formations médicales continues pour avoir un peu un avis précis sur ce que font les médecins. Tout ça participe du travail de visite médicale.
Visiteur, oui. Alors évidemment, là, il y a toute une panoplie d'attitudes des médecins vis-à-vis de cette pratique. Il y en a qui sont tout à fait opposés, qui veulent recevoir personne. Il y en a qui sont alors terribles, complètement humiliants. Il faut attendre le visiteur médical 3 heures. Là, vous avez beaucoup de cas. Vous en avez suivi même. Et vous avez remarqué qu'il y avait des attitudes très 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 variées. Hein.
Effectivement, il y a tout un rapport de force qui s'établit entre le visiteur et le médecin. Et
il ne faut pas trop parler de la marque, très vite. Hein.
C'est ça, oui. Il faut établir des relations sociales, cordiales, courtoises. Ne pas asséner un argumentaire trop offensif, trop agressif, et établir une sorte de dialogue médical avec le médecin. Je précise par ailleurs, pour pas taper trop fortement sur les visiteurs médicaux qui parfois en fait essayent de faire un peu l'inverse de ce qui leur est exigé
par le marketing,
par les services
de vente,
pas de marketing. Pardon, en l'occurrence. Oui. Essaye de proposer une autre forme de visite médicale, mais très souvent on leur fait ils doivent subir des mutations forcées, par exemple changer de secteur pour éviter qu'une sorte d'amitié dommageables au commerce finissent par lier trop fortement le visiteur médical à sa cible, hein,
parce que le docteur sympa,
des cibles, le médecin copain, comme on appelle
le
ça,
copain,
dans,
c'est
les, ça dans les brochures de formation de visite médicale.
Alors, avant de partir à ce congrès, on peut donc considérer que maintenant, ça c'est le travail de base constant, et qui a un travail alors cette fois de lobbying, et là on l'a signalé tout à l'heure avec ces personnalités d'influence, hein, et qui donc sont la deuxième partie, on peut dire le deuxième axe, hein, vous êtes d'accord pour, et que ça on va le voir dans cette visite, n'est-ce pas?
Oui, parce qu'en fait la visite médicale, vous le rappelez tout à l'heure, il y avait 17 000 visiteurs médicaux en 2010. En 1975, il n'était que 9 000, 14 000 en 91.
Oui.
23 000 en 2005, hein. Donc le nombre de visiteurs médicaux est passé de 23 000 à 17 000 en 5 ans, et donc évidemment décroissant. Il est décroissant parce que il y a une sorte de désarmement stratégique, un peu comme on pouvait le voir au moment de la guerre froide, de la part de différents laboratoires qui souhaitent dépenser moins en promotion du médicament. D'autre part, il y a aussi une critique croissante de la part des médecins qui ferment de plus en plus leurs portes, qui refusent d'accepter que les visiteurs médicaux entrent dans leur cabinet. Et également une modification, hein, en l'occurrence chez Sanofi Aventis, ça s'appelait le transforming, une modification de la promotion du médicament en essayant de s'adresser à des professions médicales beaucoup plus reconnu, c'est-à-dire à ces experts qui vont après, de proche en proche, par bouche à oreille ou au fil de leurs articles, déclencher des centaines de prescriptions, voire des milliers de prescriptions. Et donc pour un médicament particulier notamment, je me souviens d'une chef produit qui travaillait avec une médecin produit, donc un médecin spécialisé dans la conviction d'un groupe de médecins influents pour un produit particulier, qui cherchait à faire seulement les produits qui faisaient plus d'un million de chiffre d'affaires, enfin pardon, les médecins qui représentaient plus d'un million de chiffre d'affaires. Elle disait que son objectif était de fabriquer des familles d'influence. Donc là, évidemment, il faut rentrer dans les congrès médicaux, et on n'est plus dans le cabinet du médecin prescripteur généraliste, mais vraiment au cœur de la fabrique de la pensée médicale.
Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true.
The wind in the willow played a sweet melody, but all of those vows we made were never to be.
Apart, you're part of me still, for you are my thrill on Blueberry Hill.
I found my thrill.
Come climb the hill with me, baby,
on Blueberry Hill.
We'll see what we shall see. I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue.
The moon stood still.
Each afternoon we'll come
on Blueberry Hill.
Higher than the moon we'll go
and linger until
your wedding in June we'll go.
My dreams came true.
Papa thought it was buzz, but didn't it? The wind and the willow play.
Voilà, suggéré par Danny Journaud, les Blueberry Hills. Je sais pas si ça va être des montagnes un peu bleues et tout ça peut. Mis donc en son par The Fargerid, mais on va voir, parce que ça va peut-être être des plaines arides là qui vont commencer, en tout cas pour les patients que nous sommes. Alors, Quentin Ravini, nous voilà partis pour Montpellier, un grand congrès annuel.
Oui, un congrès annuel.
Son nom ?
Ce sont les journées nationales d'infectiologie.
Bon, on rentre, les super hôtesses comme à l'ordinaire, hein, qui sont à l'accueil, qui vous donnent votre petit sac rouge, le petit détail, un petit sac à dos rouge comme ça, tout le monde se reconnaît dans la ville et qu'on voit qu'il y a de l'affluence. Et puis là, donc ça va être segmenté, je le dis, je donne le plan tout de suite et on rentre dans le détail après. Il y a d'abord les stands des marques, donc là c'est... l'endroit commercial, donc c'est la foire. On se doute bien que les grosses compagnies tiennent le devant avec les stands les mieux placés, les plus chics, les plus distingués, les plus designés, et puis les petits se répartissent ailleurs. Et puis, trois salles, je crois, de symposium, plus même. Hein,
au moins, plusieurs salles.
Oui. Qui s'appellent, ils ont pris quoi
les amphithéâtres Einstein et Pasteur, notamment.
Alors que pour d'autres, vous citez un autre congrès où il y avait Pizarro, Institut, tout le monde, Sisley et consorts, tous les impressionnistes, tout le monde se mélangeait les pinceaux, ils s'y retrouvaient. Là, c'est clair, il y a Einstein, Pasteur, ainsi de suite. Bon, et où vont se tenir les symposiums ? Bon, est-ce que, première remarque d'abord, quel est le comportement, d'abord les uns par rapport aux autres, des grandes firmes pharmaceutiques et des petites, dans la partie commerciale, en quelques mots.
Alors, dans la partie commerciale, c'est vraiment l'idée qu'il faut construire une sorte de climat agréable, favorable à la visite des médecins, et dans lequel, en réalité, chaque laboratoire veille à avoir la meilleure place à l'intérieur de cette partie commerciale du congrès, tout en maintenant des rapports de collaboration mais de défiance vis-à-vis de ses concurrents. Par exemple, Pfizer, Sanofi, Aventis et Bayer vont critiquer les uns les autres les interventions en considérant qu'elles sont trop commerciales pour essayer de discréditer les concurrents.
D'accord. Et alors arrive le moment, alors là c'est donc, on change complètement de décor, on a passé le lieu des marchands du temple, et on a donc le symposium, qui est un symposium scientifique, généralement, oui. Où il y aura un papier tenu par l'un de ces personnalités éminentes qui font partie du réseau de modifications ou de lanceurs d'opinion, ou je ne sais plus comment est-ce qu'on les appelle, et qui sont extraordinairement importants, puisque vous avez dit qu'ils étaient, eux, les prescripteurs de ceux qui vont prescrire, d'une certaine manière. Ils vont modifier l'état d'esprit des médecins généralistes qui sont là à écouter.
Oui, on les appelle les KOL. Key Opinion Leader. Donc c'est les meneurs d'opinion clés, si on veut traduire littéralement. Mais ce sont aussi des scientifiques qui font des présentations parfois passionnantes et qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec le médicament. C'est ça qui contribue à brouiller formidablement les pistes. Je me souviens d'une présentation d'une scientifique qui expliquait toute l'origine du virus du sida. Et c'était une présentation d'histoire médicale absolument passionnante. Mais par la suite, les symposiums qui portent des noms de laboratoires pharmaceutiques, hein, le symposium Pfizer, symposium Bayer, symposium Sanofi, vont après essayer de mettre en avant tel ou tel médicament.
C'est ça.
Et c'est là que les choses se compliquent, c'est-à-dire que les résultats scientifiques sont parfois très intéressants, n'empêche qu'ils sont mis en avant pour pouvoir augmenter les prescriptions ou faire connaître le laboratoire. C'est donc, en fait, si vous voulez, des formes de sponsoring de la recherche médicale qui font que les chercheurs en question vont porter comme des dossards, hein, à la marque de tel ou tel laboratoire, quitte parfois à être un peu discrédité si jamais on a l'impression que c'est trop orienté d'un point de vue commercial.
C'est un pot pourri, vous dites. Hein. Alors, petite incise...
Alors, c'est pas moi qui le disais, oui, c'est un laboratoire qui disait d'un autre que c'était un sympo pourri. Et donc, ouais, du coup, comme ça, la crédibilité scientifique circule, mais aussi très souvent mise à mal dans ce type de congrès.
En tout cas, sur cet exemple, on voit un premier exemple, ou une première illustration, plutôt, de l'entrelacement permanent, puisque là, il va y avoir des données scientifiques qui vont être apportées, qui vont être apprises par les généralistes. Mais qui est l'organisateur? L'organisateur, ça veut dire celui qui paye la salle du symposium. Mmh. Eh bien, c'est le privé. Donc là, c'est un premier exemple massif d'entrelacement. Et on va le constater sur d'autres exemples. Donc, c'est quelque chose que vous répétez ou qui revient presque comme leitmotiv à différentes échelles, dans différentes proportions, avec différentes modalités d'intrication, mais il y a toujours quelque chose comme ça. Chacun est absolument nécessaire à l'autre, d'une certaine manière, non ?
Oui, je crois que le souci, si vous voulez, c'est qu'il y a un tel entrecroisement entre la recherche privée et la recherche publique de nos jours, et un tel recul finalement des budgets publics en matière de recherche médicale, que mécaniquement, c'est le privé qui se retrouve à subventionner non seulement les congrès médicaux, mais les revues savantes, et encore, comme moi j'ai eu l'occasion de le découvrir, voire même de travailler sur la question, c'est une entreprise pharmaceutique qui finance depuis 18 ans les épreuves classantes nationales blanches, c'est-à-dire le concours blanc de l'internat de médecine, pour préparer les futurs médecins.
C'est ça, il faut bien le redire.
Via une revue savante, via une revue savante qui elle-même, ayant des difficultés de budget, a besoin, si vous voulez, de cette aide financière. Donc on est face à une sorte de contrôle à distance par les industriels, via les financements, mais aussi l'organisation des congrès, les sujets qui sont choisis. On est face à un mélange des genres assez compliqué.
Alors prenons cet exemple là encore saisissant, puisque ça va être encore plus ambigu d'une certaine manière. Donc je rappelle là juste pour bien noter que ce concours de préparation, c'est comme le bac blanc pour l'internat, est organisé là, encore une fois, donc par l'industrie pharmaceutique. Voilà un beau jour que l'industrie pharmaceutique rentre dans l'Institut Pasteur. Alors Pasteur, il a deux fonctions, une fonction de recherche évidente, sa réputation mondiale, mais il est producteur aussi. Il est producteur, donc c'est un industriel de l'industrie pharmaceutique. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Parce que là, on est dans l'ambiguïté presque au carré cette fois, puisqu'il y a le privé-privé, et puis il y a le public-privé là. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, je crois que c'était quelqu'un de l'Institut Pasteur, comme je le rappelle dans le livre, qui disait que la collaboration publique-privée était inscrite dans nos gènes. Et que c'était absolument nécessaire de travailler en commun avec les industriels. C'est pas quelque chose de très récent. Je veux dire, dans les années 90, il y avait un programme Bioavenir entre Rhône Poulenc notamment et les chercheurs du public pour essayer de favoriser les collaborations qui auparavant du point de vue des chercheurs étaient vraiment perçues comme une sorte de manière de marcher sur leur plate-bande aussi pour des raisons idéologiques à une époque où peut-être les scientifiques avaient une culture politique plus clairement affirmée. Aujourd'hui, c'est monnaie courante en fait ce type de collaboration et parfois on les voit se loger dans des choses un peu étonnantes, telle recherche sur tel élément d'une bactérie, par exemple sur un plasmide, menée par un laboratoire du CNRS, va conduire à l'amélioration de la productivité industrielle de telle ou telle usine. Évidemment, le résultat de l'activité scientifique du chercheur du public lui échappe complètement, c'est-à-dire qu'il ne sait pas exactement à quoi va servir la recherche sur tel plasmide.
Hein. Donc, il ne prend pas un brevet, bien évidemment.
Et alors, en l'occurrence, le brevet, évidemment, va revenir à l'industriel qui a organisé les financements et qui va ensuite avoir la capacité de développement industriel derrière. Là, on voit aussi qu'en fait, ce qui limite les recherches publiques, c'est qu'en fait, les applications industrielles pour mettre sur le marché telle ou telle nouvelle molécule, ces applications industrielles-là, le secteur public est totalement incapable de les fabriquer réellement industriellement, puisque l'industrie pharmaceutique est un secteur privé et non un secteur public.
Quentin Ravelli, avant d'aborder ce qui sera pratiquement le dernier bloc de notre émission sur justement le passage maintenant du pur chimique au biogénétique aggravé, si je puis dire. Un petit mot quand même sur ce capitalisme féroce qui se joue encore, et là c'est du capitalisme standard, hein, ça ressemble à n'importe quel industriel. Vous parliez tout à l'heure et des extracteurs, donc en tout cas les gros éléments, ils sont deux, hein, pour obtenir à partir, il faut bien sûr tirer le principe actif et les molécules actives donc de ces bactéries, et là il y a évidemment un process biochimique et le vecteur tendanciel, c'est un de virer au maximum, c'est-à-dire de réduire les effectifs et de les réduire comment, en les pompant, avec en particulier un truc que je trouve terrible. On connaissait les 3-8, là c'est les 2-5.
C'est 5-8.
5-8, pardon. 5-8. Et puis on voit aussi le deuxième versant tout à fait pratique là cette fois, c'est que on trouve un robot quoi. Enfin on trouve, on vire les hommes pour mettre à la place des machines qui font
oui,
plus
c'est
vite.
C'est vrai que derrière en fait l'image de marque de l'industrie pharmaceutique ou les grands discours disant qu'il s'agit de laboratoires pharmaceutiques où les profits d'aujourd'hui sont les médicaments de demain, autant de choses qui justifient les taux de profit exceptionnels du secteur. Derrière cette façade scientifique, il existe un appareil industriel développé, important, dans lequel les stratégies les plus classiques et les plus vieilles du capitalisme sont mises en place sans aucun aménagement particulier lié au fait que ce serait un secteur de la santé. Oui. En l'occurrence, ce que j'ai pu voir donc dans l'usine dans laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, comme je le disais au début de l'émission, c'est que les travailleurs, du coup, sont soumis à un rythme de travail en 5-8, donc c'est 2 jours le matin de 5h à midi, 2 jours de midi à 20h, 2 jours de 20h à 5h du matin, donc on ne dort jamais 3 fois de suite à la même heure. Au fil des années, voire des décennies, évidemment la santé s'en ressent.
Hein, dans
un site industriel...
Bonjour sur les cycles.
Un site industriel où effectivement on peut voir que le slogan c'est l'essentiel, c'est la santé. Donc il y a un décalage en fait entre le discours de la marchandise et la réalité de sa production, avec une chasse permanente aux effectifs, toujours augmenter si vous voulez la productivité horaire de chaque travailleur d'une part, et d'autre part essayer de désamorcer toute forme de contestation, hein, donc en créant par exemple des techniciens ou des super techniciens qu'on dit parfois multivalents, puisqu'ils c'est comme des hommes orchestres, si vous voulez, de la production. Et on casse la logique par métier. Donc les fermentiers qui vont fermenter les bactéries, normalement, sont des gens qui travaillent de façon différente des extracteurs qui vont les extraire. Mmh. Et bien maintenant, dans la nouvelle organisation du travail, on peut passer d'un métier à un autre de façon à rendre beaucoup plus productif chaque minute de travail. Cette logique de rentabilité, en réalité... elle montre un certain visage de l'industrie pharmaceutique auquel on n'est pas réellement habitué. Et je pense qu'il faudrait rentrer dans ce secteur-là pour bien comprendre quels sont les coûts de production réels du médicament. Ouais. J'insiste là-dessus parce qu'il y a tout un débat autour du prix du médicament à l'heure actuelle, de la valeur réelle du médicament.
Il est très cher, le PIO en question. Hein.
Voilà,
c'est 24,90€.
Hein. Mais tous les médicaments sont très chers et on peut se poser la question de la légitimité ou non de faire du profit sur de tels médicaments.
Quoi. Bien sûr. Vous donnez deux chiffres. Hein. On peut à peu près estimer le prix de revient à 11 et quelques euros.
C'est vraiment des estimations, je précise
oui,
ça, parce que
estimations, oui.
L'objectif, ça serait effectivement, on parle de transparence des essais cliniques, on parle de transparence scientifique, on essaye de lutter contre la corruption et notamment tous les conflits d'intérêts qui ne cessent de rejaillir en cascade depuis l'affaire Mediator.
Oui.
Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est aussi la transparence des comptes. La transparence économique du médicament. Et je pense que si on dissocie en fait l'économie de la science et de la santé, on a une vision un peu tronquée, non seulement d'une démocratie véritable, mais aussi de ce que c'est que la médecine aujourd'hui, c'est-à-dire aussi une organisation du temps de travail et des coûts. Et je pense qu'il faudrait sortir de cette vision un petit peu parcellaire oui. de la médecine.
Alors revenons à Pio, revenons à la situation mondiale qui fait que de plus en plus il y a de la biorésistance hein, de la part des antibiotiques et des bactéries concernées. Et Pio, qui présente des faces intéressantes puisque il empêcherait, soi-disant c'est faux, mais il empêcherait donc que s'active une biorésistance des bactéries qui lui sont soumises. Mmh. Et donc, à partir de là, va arriver quelque chose qui est tout à fait significatif, c'est qu'il va falloir le modifier finement, parce que maintenant, tout le monde est au courant. Et, alors évidemment, toute petite parenthèse, ça intéresse beaucoup le capitalisme financier d'aventure, si je peux dire, retour sur investissement très très fort. Voilà que maintenant, on fait plus travailler longuement les chimistes pour déplacer telle petite molécule. Non, on est dans la biotechnologie, hein, c'est clair et net, et on voit la complexité de l'affaire, hein. Donc, c'est des sculpteurs biochimiques, hein, maintenant, qui sont dans l'affaire pour améliorer Pio, c'est bien ça. Hein.
Oui, il y a un peu.
Et là, vous dites que c'est un tournant très important.
Oui, je pense que c'est un tournant important qui fait que les biotechnologies sont considérées comme l'avenir des nouveaux médicaments pour l'industrie pharmaceutique, en tout cas. Et donc, du coup, ça veut dire que le vivant. Les gènes vont avoir un intérêt toujours plus important pour trouver les médicaments qui seront porteurs d'un point de vue commercial. Donc l'industrie pharmaceutique a lancé de longues opérations de rachat des entreprises de biotechnologie qui commencent dans les années 80 mais qui se sont accélérées ces dernières années où en fait on va chercher à trouver des organismes génétiquement modifiés toujours plus performants. Hein, par exemple, pour le cancer du sein, par exemple, Genentech avait découvert un médicament qui s'appelle l'herceptine, fondé sur la culture d'ovaires d'hamsters chinois qu'on va modifier génétiquement au fur et à mesure. Et donc, du coup, les micro-organismes servent comme de petites usines à produire de nouveaux médicaments.
C'est ça, la bactérie comme petite usine. Alors, là, une chose qu'on peut apprendre aussi, hein, c'est que dans cette molécule active, il y a ce qui s'appelle du rebut. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est là, c'est généralement considéré comme un défaut du produit. Et c'est là, sur cette partie-là, hein, que c'est un peu comme l'excipient pour la totalité du médicament. C'est un peu sur cette partie-là que va se jouer le travail des sculpteurs biogénéticiens. Hein.
Alors oui, en l'occurrence, là, le travail des ingénieurs chimistes, c'est vraiment d'améliorer à chaque fois les molécules, toujours un peu plus, pour qu'elles soient plus efficaces, pour qu'elles aient moins d'effets secondaires, pour que elles soient fabricables à des prix, à des coûts inférieurs. Et dans le cas de la pyostacine, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une partie qu'ils appellent du ballast. C'est comme si la molécule avait une surcharge pondérale et qu'il fallait la faire maigrir. Et donc on s'aperçoit en fait qu'on rentre dans le détail que la connaissance du médicament qui échappe un peu aux médecins généralistes et qui échappe même parfois aux coordonnateurs d'essais cliniques, échappe même parfois aux propres industriels. C'est 15 à 20% de ballast selon les avis des chercheurs montre qu'il y a toute une sorte d'angle mort de la molécule qui n'est pas réellement connu, pas maîtrisé et qui n'est évidemment pas connu non plus de la part du patient puisque à chaque fois, à chaque nouveau maillon de la chaîne, l'information s'amenuise toujours un peu plus et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc les ingénieurs chimistes essayent de modifier ces molécules là. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, enfin, on appelle ça les MeToo souvent dans le secteur, ouais. C'est-à-dire qu'on transforme une petite partie de la structure moléculaire et on le présente comme étant une molécule complètement distincte. Ce qui n'est pas véritablement le cas, parce que l'objectif de nouveaux médicaments, c'est la recherche, si elle sert vraiment à quelque chose dans l'industrie pharmaceutique, c'est quand même si elle trouve des molécules qui apportent réellement un service médical rendu. Hein. On mesure ça en termes d'ASMR, l'augmentation du service médical rendu. Or, très souvent, c'est une petite variation qui permet d'accéder à un nouveau marché. C'est une façon de concevoir la pratique scientifique peut-être un peu limitée, hein, c'est-à-dire pas trouver de nouveaux médicaments, mais de faire du nouveau avec du vieux,
de l'ancien. Hein,
avec de l'ancien,
ouais.
Pour renouveler un peu les stocks, quoi.
Alors, cet itinéraire biographique, donc concernant cette molécule, vous avez une double attitude, c'est-à-dire purement descriptive, où le travail de sociologue est dans la neutralité descriptive, et puis vous avez aussi des évaluations, hein, qui sont des évaluations politiques. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, les derniers mots du texte, vous allez presque devoir me répondre par oui ou non. Des antibiotiques aux produits financiers, en passant par les matières premières agricoles, on retrouve les mêmes contradictions de la valeur, la même monstruosité de la marchandise, qui ne sera jamais dans le cadre du capitalisme une chose purement inoffensive. Quentin Ravelli, c'est franchement sombre. Hein, hein,
c'est sombre, et en même temps, je terminerai peut-être par une petite note d'espoir, ce qui est que je pense que toutes ces marchandises dont on parle suscitent parfois des effets contradictoires, des remises en question. En l'occurrence, le fait que la stratégie de la bactérie, donc la capacité de l'industrie pharmaceutique à s'adapter à la contradiction, montre aussi qu'il y a beaucoup de contradictions et qu'il y a des gens qui s'opposent à ce système-là. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est le
Bien.
Fait que l'espoir existe.
Eh ben, écoutez, essayons de garder l'espoir. Quentin Ravelli, donc auteur de La stratégie de la bactérie, avec comme sous-titre une enquête au cœur de l'industrie pharmaceutique, et publié aux éditions du Seuil. C'était bien sûr Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours les bienvenues. Aujourd'hui à la technique de Phare Guéride, pour la documentation Henri Leblanc, à la réalisation d'Annie Journeau. Stéphane Deligeorges, Continent Science, c'est balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.